les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Vincent Desureaux est là. Salut Vincent.
Salut Alex.
Alors, je pense que honnêtement, là, tout le monde a été choqué, bouleversé par cette attaque russe, notamment là, sur cette zone civile, centre commercial, les alentours également. Mais tu vas nous décrire de nouvelles images qui viennent juste de sortir, là, que je viens de voir également, qui nous démontrent la panique des gens, l'espèce de puissance, le souffle de l'explosion également là, qui se fait ressentir. C'est épouvantable, ouais. Cette séquence-là.
Ce sont de nouvelles images. Ce soir, là, dans les bulletins de nouvelles, vous allez les voir. Ouais. C'est sur d'images de caméras de surveillance filmées hier à Kremenchuk, donc en Ukraine, un coin où les citoyens là faisaient leur vie. On s'entend qu'ils sont en situation de guerre, ouais. Mais c'est un coin qui, pour le moment, était plutôt tranquille, centre d'achat et tout ça. Ils ont été frappés par deux missiles hier, et sur les images qu'on voit, c'est des images un peu d'un petit parc, un beau petit parc avec un étang, il y a des petits canards, il y a des oiseaux.
Très paisible,
les gens se promènent. Là, un peu comme on le ferait aujourd'hui par une belle journée du mois de juin là-bas. Donc, des petites familles, les gens se promènent, c'est tranquille. Là, et on le voit pas nécessairement sur les images, mais il y a un premier missile qui frappe. Et les images commencent au moment où on voit les gens qui se cachent les oreilles parce que ça vient d'exploser pas loin, partent un peu à la course dans tous les sens. Et c'est à ce moment-là que frappe un deuxième missile, mais extrêmement près des gens, où on voit le souffle là, qui soulève presque des gens qui se lancent partout, sautent dans l'étang. On voit des images d'un père avec sa petite fille, là, une enfant, il la prend dans ses bras pour essayer de se sauver du souffle de l'explosion.
C'est un traumatisme pour cette petite fille-là.
Oui, qu'est-ce que t'expliques à cet enfant-là? À dire, il y a des gens là, dans le pays voisin qui veulent nous tuer. On voit aussi un petit coin là, au milieu de l'étang où tout le monde part à course et le souffle, on le voit sur l'eau, là, vraiment passer par-dessus l'eau. C'est terrifiant, les images. Et on se dit, ma foi, mais ils sont malades. Et pourquoi je dis que c'est des images importantes à regarder? C'est qu'on voyait là, au G7, puis beaucoup de grands titres ont utilisé ces termes-là, montrant qu'il y avait peut-être une fatigue dans le mouvement international pour répliquer à la Russie, qu'il y avait peut-être des fractures aussi dans l'appui, un écœurement dans l'opinion publique à envoyer de l'argent, envoyer des armes.
Mais là, ça peut pas rester impuni, là, des gestes comme ça.
C'est ça. C'est que là, il faut quand même, au-delà de la... Tu sais, ça fait des mois, on a tendance, puis là, c'est l'été, à vouloir regarder d'autres choses, et à se dire, ben là, nous... Il y a de l'inflation. Est-ce qu'on se rend dans une grande crise économique? Est-ce qu'on va commencer à pomper de l'argent dans une guerre? Ben, c'est le genre d'image qui nous ramène là, à dire, OK, ben là, oui, on a de l'inflation. Oui, le conflit en ce moment, l'invasion de l'Ukraine, il contribue à la situation actuelle. Mais faut pas lâcher. Et c'est un choix à un moment donné de la société dans laquelle on va vouloir vivre et de dire ben là c'est assez, la ligne rouge elle est là, puis on laissera pas l'Ukraine s'effondrer. Et quand vous allez voir des images de familles, d'enfants qui totalement gratuitement, parce que c'est aucunement une cible militaire. C'est d'ailleurs Zelensky le disait avec justesse là. Il dit que c'est une attaque terroriste complètement folle.
On parle de crimes de guerre aussi.
Qui a fait 18 morts. C'est des crimes. Ouais. Écoute, les crimes de guerre, c'est les uns après les autres. Ouais. Ensuite, ils vont dire ben non, c'est pas nous. C'est les Ukrainiens qui se tirent eux autres mêmes pour influencer les médias. Ben je vous invite donc à aller voir ce soir et à rappeler, parce que nos politiciens vont devoir se le faire rappeler aussi, que la population est derrière les mesures. Faudrait que les partis d'opposition on continue aussi de dire, on n'embarquera pas dans le jeu de commencer à dire, ben là, c'est assez, vous envoyez de l'argent à l'extérieur alors qu'on a des besoins chez nous. Oui, il y a des besoins ici, mais c'est l'inflation puis des contre-coups économiques. Nous, c'est le prix qu'on a à payer parce que là-bas, ils se font bombarder. Je pense que c'est un faible prix et c'est le genre d'histoire qui va nous ramener ça, là, puis qui va nous le ramener au cœur. Ouais. Alors, oui, il y a des gens qui sont décédés là. C'est peut-être une image, par contre, qui va contribuer à ce que l'aide à l'Ukraine persévère un peu dans le temps.
Il y a de ces moments pivots où souvent dans des conflits, hein, des images marquantes qui nous restent en tête.
Alors, tu viens dans l'immigrant en Europe, là, tu sais, le jeune enfant qui était noyé sur, là, la plage. C'était un décès là, parmi tant d'autres, mais c'est le décès qui avait réveillé l'opinion publique. Là, l'opinion, elle est réveillée, mais c'est d'empêcher qu'elle s'endorme, là, puis qu'on devienne apathique face à ça. Et c'est le genre d'histoire qui doit nous redresser encore le poil sur les bras, puis dire, OK, c'est assez.
T'as entièrement raison, Vincent. Si on revient chez nous un peu, on a beaucoup parlé de pénurie de logement. J'ai discuté avec Manon Massé un peu plus tôt, sur ce que devrait faire le gouvernement, ce que ferait QS s'ils étaient en place. Mais une chose est sûre, là. Airbnb, On est en droit de se questionner sur l'impact que ça a, notamment bon sur la pénurie de logements, sur l'offre touristique également, pas juste à Montréal, ça touche certaines villes et villages du Québec.
Ouais, les villages champêtres, le Devoir a un très intéressant dossier ce matin sur la situation des Airbnb dans des villages là touristiques. Et on pense par exemple à des coins comme la petite rivière Saint-François, donc coin très populaire, oui. Tu connais bien pour les skieurs, mm-hmm. C'est populaire. L'Anse-Saint-Jean, un coin absolument magnifique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Mont-Tremblant, bon là on parle d'un coin très touristique aussi. Alors, ce genre d'endroit-là, les éboulements, Saint-Irénée, où on a la plage et compagnie, Airbnb là-bas devient un problème majeur parce qu'il y a tellement de gens qui achètent là pour pouvoir louer pendant la période estivale parce qu'ils font de l'argent que ça rend très, très difficile de trouver un logement, encore plus même que dans les grandes villes, au point où, et les chiffres sont quand même, moi, c'est les chiffres qui m'ont fait sursauter en disant, je comprends bien là, que dans des villages touristiques, il y a des gens qui se prennent des Airbnb. À Montréal, on le disait au départ, le problème était là. À Montréal, ouais. Bon, les hôtels, personne ne va aller là. Ça va être juste les Airbnb. C'est 1% du parc locatif qui est à Airbnb. 1%. Et ça cause des problèmes quand même à certains endroits. C'est 9000 logements qui sont mis en location sur Airbnb à Montréal. 1% donc à Montréal. Si je vous donne quelques endroits, Mont-Tremblant, c'est 11%. Donc, hey, c'est 10 beaucoup, fois plus que le taux d'occupation à Montréal.
Mais je suis pas surpris.
L'Anse-Saint-Jean, 16%. Et Petite-Rivière-Saint-François, 38%.
Hey!
Donc, presque 40% du parc locatif en ce moment est disponible sur Airbnb.
Wow.
Alors, toi, c'est une personne qui a un petit travail à Petite-Rivière-Saint-François. T'es né là, tu n'as pas un gros salaire. Ben là, écoute, si tu as besoin de déménager, là, je peux te dire que le montant, tu le payes et pas à peu près, parce que les prix sont très élevés, même plus chers qu'à Montréal. Le prix moyen d'un logement,
si
on prend pour un appart, en fait, dans 4 municipalités régionales du Québec, c'est autour de 1 500 $. Le moyen, là, alors qu'à Montréal, c'est un petit peu en bas de ça, 1 425 $.
Dans les endroits que tu m'as nommés, c'est 1 500 $?
1 500 $, l'appartement moyen. On se dit en région, Alexandre, tu payes 800-900 $, t'as un bel appart.
Aïe, aïe, aïe.
Mais c'est pas ça qu'on a là-bas. Et des gens qui veulent travailler, parce qu'il y a des pénuries de main d'œuvre aussi en région.
Ben, c'est des endroits aussi où l'industrie touristique est hyper importante. T'es mais où? T'es logé où? T'es travailleur?
T'as tout à fait le point qui est... Là, il y a des gens qui ont des auberges, qui ont des hôtels, qui ont des trucs d'activité, incapables de trouver du monde. Parce que tu disais, je vais embaucher des jeunes pas trop chers. Ils vont se loger où? Ils sont obligés de faire du couchsurfing, rester sur quelqu'un. Il y en a pas d'appartement parce que tout le monde les met sur Airbnb. Souvent des gens qui restent même pas là, des gens qui ont investi à Montréal. Alors je comprends que si t'habites à L'Anse-Saint-Jean, tu pars 2 semaines pendant l'été, tu mets ton logement, c'est à ça que ça sert. Moi, je suis pas contre Airbnb, je l'ai utilisé. Mm-hmm. L'objectif étant de le laisser quelque temps, temporairement, quand tu quittes pour quelques jours ton logement. Par contre, pour plusieurs, c'est devenu une business.
Ben oui.
Et là, c'est en train d'être un boulet économique à certaines régions parce que, écoute, tu te retrouves en pénurie de personnel, pénurie de logement grave. Et là, toute la ville est obligée de payer son logement plus cher parce que c'est rendu le Airbnb Festival dans plusieurs petits coins de pays du Québec.
C'est incroyable. Puis tu sais, pour ces propriétaires-là, c'est plus payant de par exemple, le mettre sur Airbnb, de le louer, pas tout le temps, là. Mais les saisons, les hautes saisons touristiques sont tellement lucratives, tellement payantes, quand tu peux louer un petit condo 500, 600, 700 piastres la nuit, que même s'il n'est pas occupé le reste du temps...
T'as fait ton argent,
mais...
Tu iras pas l'hiver, tu t'aideras peut-être les endroits où ça skie.
Ouais,
mais
ouais, c'est ça. Puis
tu contribues
fêtes,
pas le reste du temps, tu contribues pas à la vie économique, à la vitalité, à connaître tes voisins, à mettre de la vie dans la ville.
Puis l'enjeu social. Écoute, il y a des gens que ça leur passe 20 pieds par-dessus la tête.
C'est pour ça que moi, je suis pas contre Airbnb au complet. Par contre, dans certains comme ça, coins champêtres, où on veut encourager que les gens se partent des bed and breakfast, ça fasse rouler l'économie, juste d'avoir un parc locatif inondé de Airbnb, ça semble être un problème. Est-ce qu'on peut contrôler juste ça par municipalité? Peut-être. Parce qu'il semble avoir un essoufflement là à certains endroits.
C'est décrié, en tout cas, de plus en plus, là, notamment par plusieurs parties politique là, vraiment le Québec solidaire me disait aujourd'hui effectivement que cette plateforme là accentue la pression, c'est dans la ligne de mire de Québec solidaire et on propose vraiment en tout cas de s'attaquer à cette oui. situation là.
Oui, dans les grandes villes, il y a aussi que les hôteliers, ils ont eu de la misère, ils ont ils méritent aussi que leur business fonctionne bien.
Un peu, ben oui,
je comprends
ben oui.
qu'il y en a qui disent ben moi j'ai acheté plein d'immobilier puis il faut que je fasse de l'argent, mais c'est pas supposé la business c'est pas nécessairement supposé être là, surtout en pénurie de logement, ça devient difficile.
Le phénomène du bullying en ligne, l'intimidation sur les réseaux sociaux, bon, on est à peu près du même âge. Là.
Oui.
Moi, quand j'étais au primaire, au secondaire, ça n'existait pas.
On se faisait écœurer dans la cour d'école.
On se faisait écœurer au rack à baisser.
Exactement.
Mais je me mets dans la peau des jeunes d'aujourd'hui, là, puis tu sais, où ils peuvent vivre des difficultés dans la cour d'école, à l'école, en classe, mais le problème aussi, c'est que ça se poursuit le soir à la maison sur les réseaux sociaux. Puis c'est à se demander, puis tu t'interroges, est-ce que c'est pire en ligne ou en pleine face?
Ouais, parce que, écoute, il vient d'avoir parution d'une étude sur le sujet auprès de 10 000 jeunes américains et israéliens sur le bullying, l'intimidation en ligne et hors ligne. Et une certaine révélation là-dedans que j'ai trouvé intéressante, parce que chez les jeunes qui se font intimider, il y a un plus haut taux de suicide, ce qui est évidemment l'extrême résultat de certains cas d'intimidation. Souvent, faut dire, c'est multifactoriel, mais le bullying y contribue. Et après cette étude, auprès quand même de milliers de jeunes, deux conclusions intéressantes. La première, il y a maintenant plus de bullying en ligne qu'en personne dans la cour d'école. Donc, plus de jeunes, c'est quand même pas mal. Dans ceux qui se font intimider, disent 84% vont l'être en ligne versus 61% en personne.
Okay.
Alors, il y a vraiment davantage maintenant d'intimidation en ligne. Je comprends... des gens là, comme nous qui sont sur les réseaux sociaux souvent pour le travail,
oui,
on est automatiquement un peu à la tête.
On a notre lot de cabochon.
C'est ça. Mais quand t'es à l'école, tu te dis, OK, c'est parce que tu fais cibler sur ton Facebook personnel, sur ton Instagram personnel et compagnie. Et sur l'impact, mais le chiffre est assez aussi intéressant, intéressant et inquiétant, c'est que la cyber-intimidation semble causer plus de tort que l'intimidation en personne. On comprend que c'est négatif dans les deux cas. Ouais. Par contre, le taux de pensée suicidaire est plus élevé pour l'intimidation en ligne, sans qu'on se l'explique vraiment. Est-ce que c'est parce qu'on le vit seul, des fois dans sa chambre, quand on est dans l'adolescence, plutôt que dans une cour d'école où, écoute, au moins, tu socialises difficilement, mais tu vas avoir des personnes ressources un peu plus que seul à la maison, par exemple.
Écoute, moi, j'ai pas de grandes études là-dedans, là. C'est une théorie à deux scènes, là, mais j'ai l'impression que... quand c'est à la maison, virtuellement, t'es comme dans ton espace à toi. T'es comme dans ton safe space, t'es dans ton petit cocon, t'es chez vous. Puis là, il y a quelqu'un qui t'atteint chez vous.
Qui réussit à t'envoyer une flèche.
Oui, c'est ça. C'est peut-être
vous.
Pour ça, tu sais.
Je pense que oui, parce que dans le temps, je pense que ça arrivait à tout jeune, au primaire, au secondaire, à un moment donné, de se faire écœurer. T'arrivais quand même chez vous, tu fermais la porte, puis...
t'étais en sécurité.
À part si quelqu'un t'appelle, tu débranches ton téléphone, c'est quand même assez facile de s'éviter ça. Donc, ce qui amène la recommandation aux parents d'être toujours vigilants sur l'intimidation, la cyber-intimidation, et surtout, puis ça, c'est, j'ai suivi beaucoup les dossiers du web à travers les dernières années, et un des conseils que je pense qui sont les plus importants pour les parents, d'établir une relation de confiance. Souvent, les jeunes, ils voudront jamais parler de ça avec leurs parents. Mais il faut amener cette discussion-là à être capable de parler du sujet, d'être, tu sais, t'arrives-tu des mauvaises expériences sur Internet, et tu sais ce lien-là pour leur dire, hey, le jour où t'arrives quelque chose, le jour où tu te fais intimider, le jour où tu fais l'erreur que certains jeunes vont faire, que tu sais, t'as un petit couple, t'envoies une photo sexy, puis là, finalement, la photo fait le tour de l'école. Le jour où ça t'arrive, faut que tu viennes m'en parler et je ne peux pas te juger. Parce que c'est souvent ça, les jeunes vont avoir peur, vont garder ça pour eux, et c'est là que les pensées noires vont arriver. Donc, faut établir ce lien-là, dire oui, je le sais que ça te fera pas plaisir de le dire à maman ou à papa, là, que tu t'es fait avoir sur Internet ou que tu te fais intimider, mais viens m'en parler, je vais pas te juger, on va traverser ça ensemble. Ouais. Ça, c'est un travail important du parent, je pense, à établir ce lien-là.
Ça, c'est vrai. T'sais, moi, j'ai pas été intimidé à outrance à l'école, mais comme un peu tout le monde.
De temps en temps, on avait une mauvaise journée.
D'arriver, surtout secondaire 1, 2, par exemple, là, de mon souvenir. Puis je me souviens à quel point mes parents ont été d'un support incroyable. Là.
Donc toi, t'étais capable d'en...
Ah oui, oui, moi je fais pas juste parler beaucoup à radio, c'est ça. Je parle beaucoup.
Moi, j'aurais jamais parlé de ça avec mes parents parce que j'avais pas confiance en eux, mais j'avais pas... j'aurais gardé ça en dedans.
Okay.
Donc c'est important, je pense, de le vivre comme toi, puis de dire, on va en parler, on va débriefer ça à la maison, tu vas te sentir mieux.
Oui, puis ça a cessé vraiment pas longtemps après, puis tant mieux, puis ensuite, j'ai pu vivre une belle vie. Mais tu sais, on disait, clin d'œil, là, tu sais, on dit quasiment à la blague, ah ben oui, quand on fait un métier public, ça vient avec, tu sais. Pourquoi ça viendrait avec?
Oui, t'as tout à fait raison. tout à fait raison. D'ailleurs, on se fait une carapace, plus ou moins. Tu peux recevoir un message qui va. Des fois, c'est pas les pires insultes qui viennent nous chercher. Et c'est vrai que c'est pas parce que dans les médias que tu as le droit de me parler comme une merde.
Ben, non, puis ces gens-là, n'auraient même pas le courage de nous le dire en pleine face, en passant.
Non.
Ils n'auraient pas une once de courage. Et moi, je ramène un point aussi qui est important, c'est la responsabilité des plateformes de réseaux sociaux. Tu sais, souvent, là, on va signaler un comportement inapproprié, un message inapproprié, un faux profil, peu importe. Puis là, la seule réponse insignifiante de Facebook puis de toutes ces plateformes de réseaux sociaux-là, c'est « ça ne convient pas au code de... »
Oui,
ils font rien avec ça. Ils ont les deux doigts dans le nez. Ils font rien. Moi, je trouve qu'ils ont une responsabilité là-dedans aussi.
Oui, et souvent, si tu supprimes un bloc, un compte, la personne va s'en ouvrir un deuxième. Le lendemain, c'est très rapide, alors qu'il y a des algorithmes qui permettraient facilement de deviner que c'est la même personne et de bloquer tout ça.
Ben, tu sais, surtout quand t'es adolescent. Tu sais, mettons, là, à notre âge, là, quand même que tu me dis que tu m'aimes pas, là. Bon.
Oui, sûr que tu vas bien dormir pareil.
L'important, c'est Guy Lepage qui disait ça. L'important, c'est qu'il y a plus de gens qui t'aiment.
Qui t'aiment pas.
Dans ce métier-là. Bon, tu veux continuer.
Garder le rapport.
Mais tu sais, un jeune, là. Un ado qui est en construction de soi, qui peut-être avoir une moins grande confiance ou qui peut avoir des doutes, être plus sensible à ces choses-là. Hey, ça l'atteint, ça fait mal.
Oui. Là. Puis les réseaux sociaux, à l'adolescence, on devient lettre là aussi. Là. puis là, tu te sens pas bien, t'as des longs bras, t'as les genoux qui claquent, tu sais, on des boutonneux. Il y a tous des bouts difficiles où tu te dis, ma foi, j'ai vraiment pas confiance en moi. Et c'est souvent là que ça frappe le plus.
Ouais, mais moi, ce que je retiens, c'est important d'en parler aux gens, puis t'as bien fait de le rappeler. Hey, merci Vincent, on t'écoute à midi et demi.
À demain.
Salut.